Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit public, un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, la sociologue et ancienne membre du Conseil constitutionnel Dominique Schnapper, la journaliste du Monde Sylvie Kaufmann, l'économiste Daniel Cohen et le directeur de Terra Nova Thierry Pech. Au sommaire de ce dimanche 10 mars, Algérie, histoire d'un gâchis et l'heure de vérité. Et puis après la lettre aux Européens cette semaine du président français, Macron est-il en position de jouer les Superman de l'Europe? Algérie, l'heure de vérité. Depuis le 22 février dernier, le peuple, dans la rue, tous âges, toutes classes sociales confondues, contestant la décision d'Abdelaziz Bouteflika de briguer un cinquième mandat. Mouvement d'espoir, mais aussi mouvement tellement raisonnable, avec ces images incroyables de manifestants veillant à remettre en bon état la voie publique après les cortèges. Dire non à Bouteflika, mais ne pas renverser la table. Traumatisme du passé, les Algériens ayant parfaitement intériorisé un certain nombre de périls. « Sauver ce qu'il reste à sauver », écrivait cette semaine l'écrivain algérien Yasmina Kadra dans l'Obs. « Éviter les courants opportunistes de ceux qui vont vouloir les récupérer, les islamistes en particulier, islamistes servant aussi d'épée de Damoclès brandie par le régime pour faire peur à la nation ». Algérie, heure de vérité. Et ce corps à corps si bien décrit par un autre écrivain algérien dans Le Point, Kamel Daoud, racontant d'un côté le corps de Bouteflika, immobile, figé, incarnation d'une génération qui ne voulait pas mourir, et de l'autre le corps du manifestant, joyeux, riant, chantant, en mouvement. Algérie, histoire d'un gâchis. D'abord la décolonisation sanglante, puis la guerre algéro-algérienne et puis l'État FLN, imposant un monde façonné par les agents d'influence de l'URSS quand le KGB débarquait en force en Algérie après l'indépendance. Et puis bien sûr les années 90, autre violence extrême pour éradiquer ces partis islamistes qui avaient attiré vers eux une multitude de jeunes condamnés au chômage et à la désespérance. Enfin tous ces présidents et derrière eux cette nomenclatura de généraux, services secrets et hommes d'affaires oligarques tirant les ficelles d'un pouvoir opaque. Algérie, histoire d'un gâchis, au pays du gaz et du pétrole, au pays des littoraux somptueux de Méditerranée qui ne s'ouvraient pas au tourisme, Algériens se réveillant enfin pour poser la question « Qu'avons-nous fait de plus d'un demi-siècle d'indépendance ?»
Le peuple est fatigué. Ça fait... Pour la majorité d'entre nous, on n'a pas connu d'autres présidents. Il est temps de changer les choses.
Nous sommes étudiants à l'Université d'Alger. Nous nous sommes tous rassemblés à la Grande Poste pour montrer et bien clarifier au pouvoir que nous ne souhaitons pas le cinquième mandat de Bouteflika et pas que le cinquième mandat, tout le système.
La loi dit qu'aucun président ne peut être nommé s'il est absent du pays et qu'aucune candidature ne peut être faite par procuration. Elle doit être faite en personne. C'est une violation de la volonté du peuple.
Les médias doivent s'exprimer pendant ce mouvement sans aucune tutelle, sans aucune orientation.
Voilà pour le son, la musique, l'ambiance de ces cortèges en Algérie. Et vendredi, les manifestations ont d'ailleurs été les plus importantes, Sylvie Kaufmann, depuis le début du mouvement. Des foules immenses dans les principales villes du pays, toujours d'ailleurs de manière pacifique. Des événements que les autorités peinent de plus en plus à contenir, qui mobilisent, paraît-il, de nombreuses femmes, de plus en plus les femmes. Est-ce que de toute façon, quoi qu'il arrive dans les jours qui viennent, l'Algérie vit la fin d'un cycle?
Alors... Je voudrais commencer par en énonçant un petit principe de précaution qui est que on connaît mal l'Algérie, ce qui est très paradoxal vu notre histoire commune, vu les liens que nous avons, vu les échanges que nous avons, vu les populations communes que nous avons. Et pourtant, je vais être très prudente parce que d'abord, comme journaliste, c'est très difficile d'aller en Algérie. Il est extrêmement difficile d'avoir des visas. Ensuite, l'opacité de ce régime, comme vous l'avez dit. Donc la lecture de ces événements, malgré l'enthousiasme spontané qu'on a envie d'avoir, l'émotion, parce que c'est vraiment émouvant ce qui se passe là-bas depuis le 22 février. Évidemment, Je crois que le décryptage et l'analyse de ce qui va se passer demandent la plus grande prudence. Alors d'abord, il y a cet immense espoir qui est soulevé par ces manifestations massives, très étendues visiblement dans le pays. Donc c'est important, c'est pas seulement Alger, c'est aussi plusieurs régions et plusieurs villes, y compris des petites villes. Et puis c'est plusieurs générations, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui commence avec les jeunes qui n'ont pas ce fameux poids de l'histoire et notamment de la décennie noire qui est censée paralyser tout le monde et empêcher tout le monde de s'exprimer, celle des années 90 de la guerre civile qui a fait entre 100 et 200 000 morts, je crois, selon les estimations.
Entre 150 000 et 200 000.
Voilà, donc les jeunes ont commencé. On voit que, et c'était contre la plus ancienne génération, celle dont parlait Kamel Daoud tout à l'heure en disant cette génération qui ne veut pas mourir, celle de Bouteflika, bien entendu. Et lui, Kamel Daoud avait l'habitude de dire c'est une génération qui ne veut pas mourir et qui va nous tuer avec elle. Eh bien non, les générations successives refusent de mourir, refusent d'être tuées avec cette vieille génération héritière de l'indépendance, de la guerre d'indépendance, reviennent à la vie d'une certaine manière. Alors donc, après les jeunes, il y a une autre génération qui arrive, et ça, je trouve ça vraiment très intéressant, c'est celle des qu'on appelle souvent en Algérie les 88ards, donc les gens qui ont 40, 50 ans, les parents de ces jeunes, qui, eux, ont vécu ce traumatisme parce qu'ils ont été les acteurs ou les témoins du printemps algérien de la fin des années 80, qui a débouché sur cette confiscation du pouvoir d'abord par cette récupération du pouvoir par les islamistes, puis cette confiscation et cette répression terrible, enfin voilà, qui a débouché sur le retour de Bouteflika d'exil, et il est donc là depuis 1999. Donc c'est et cette génération des 88ards, je voudrais parler un tout petit moment de quelques films, parce que le cinéma algérien, si nous on connaît mal Algérie, on peut toujours, par la littérature bien sûr, et aussi par le cinéma, faire connaissance de manière plus approfondie. Et il y a eu ces deux dernières années des films formidables, notamment, un d'une jeune cinéaste qui s'appelle Sophia Djama, Les Bienheureux, qui est sorti l'année dernière, et qui met en scène ces deux générations, donc les parents, qui sont des déçus, qui sont amers, qui ont vécu ce printemps de 88, et leurs enfants, et l'errance de ces enfants entre qui sont tantôt attirés par ce qu'ils appellent le punk halal, ou alors qui se décrivent comme salafistes postmodernistes. Enfin, on voit toutes ces cultures qui se sont créées, mais qui ne rêvent finalement que d'une chose, c'est de partir, et qui essayent de se créer une existence dans cet immobilisme, dans cette paralysie. Et il y a un autre film qui décrit très très bien cette attente interminable d'un avenir qui ne vient pas, c'est En attendant les hirondelles de Karim Messaoui, qui est aussi sorti l'année dernière. Voilà, donc cette société figée, bourrée de regrets, immobile, on la voit se réveiller, s'animer et exprimer. Donc, qu'est-ce qu'elle exprime? C'est là toute la question. Est-ce que c'est, visiblement, on est au début, c'était la demande d'un renoncement de Bouteflika à un cinquième mandat, à une cinquième candidature. On voit maintenant que ça va évidemment beaucoup plus loin. On parle de changement de système. Mais il n'y a pas de revendication claire, concrète. Il n'y a pas de projet alternatif, évidemment, puisque cette opposition est fragmentée. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? Je pense que c'est ce dont on va parler maintenant.
Même si Thierry Pêche, certains politologues algériens notamment, saluent une sorte de maturité politique formidable de ces mouvements. Certains énoncent des propositions lorsqu'ils font référence au modèle tunisien, par exemple, lorsqu'ils demandent qu'il se passe la même chose que ce qui s'est passé en Tunisie, par exemple, avec une assemblée constituante.
Oui, en effet, c'est un mouvement qui donne le sentiment d'une assez grande maturité démocratique. C'était même émouvant de voir ces images, on les a tous dans les yeux au moment où on en parle, de jeunes étudiants algérois ou d'Oran ou de Constantine qui exprimaient leurs revendications, entourés par des forces de l'ordre qui avaient l'arme au pied, qui étaient également très démocratiques, qui laissaient s'exprimer les positions des uns et des autres. Et puis c'est une maturité aussi qui vient du fait que ces foules sont instruites du passé, sont hanté par le traumatisme des années 90, qui, lorsqu'elles ne l'ont pas vécu, en ont suffisamment entendu parler et subi les conséquences pour en être conscientes. Et puis aussi hanté, bien sûr, par les échecs de certains des printemps arabes récents, et bien sûr l'un d'eux en particulier, qui est la Syrie, qui est brandie comme une menace de chaos par les forces du régime. Donc on a là affaire à une foule sérieuse, à une foule très sérieuse, très concentrée finalement sur son
très
objet.
Très responsable.
Très responsable et qui sait que tout débordement, tout désordre, toute violence jouerait immédiatement contre elle. Donc vraiment c'est impressionnant de ce point de vue-là. Alors après, ce que dit Sylvie est tout à fait juste. Je pense que ce qui manque le plus à ce mouvement, c'est le commencement d'une idée de l'alternative, de l'offre alternative. Et ça, évidemment, c'est très compliqué parce que on a beaucoup moqué le régime Bouteflika. C'est vrai que son personnage principal ressemble beaucoup à une espèce de vieillard kakoshim à moitié empaillé. On ne sait pas trop où il se trouve. On ne sait pas trop s'il est encore capable de parler. Certains se demandent même s'il est encore vivant. Mais enfin, Bouteflika, le régime Bouteflika avait atteint un point d'équilibre très subtil, très compliqué à obtenir. Premier point d'équilibre, ce qu'on a appelé la réconciliation amnésique, puisqu'il a fait l'amnistie très rapidement et il a acheté d'une certaine façon la complicité ou le silence des principaux mouvements islamistes. Hein. Il a gentrifié d'une certaine façon l'islamisme qui avait été extrêmement violent dans les années 90, finançant des mosquées, finançant des confréries, intégrant finalement tous ces personnages au régime. C'est d'ailleurs pourquoi ces personnages sont aujourd'hui extrêmement silencieux face à ce qui est en train de se passer. Mais l'autre aspect des années Bouteflika, 20 ans quand même hein, de pouvoir, c'est l'achat de la paix sociale avec la rente pétrolière, avec des grands projets d'infrastructure, des prêts à taux zéro, des subventions aux entreprises, aux produits de première nécessité, des logements. 2 millions de logements construits en 15 ans pour une population qui compte 40 millions de personnes et qui avait un problème endémique de bidonville. Bon. Donc tout ça a permis pendant 20 ans de faire face à cette formidable pression démographique qui s'exerce aujourd'hui en Algérie. Et de fait, tout ça est très fragile. Tout ça tient à une combinaison savante entre les forces de l'armée, etc. Bon. Donc il est évident que l'énergie des temps de libération est complètement épuisée. Ce que vous avez dit, Sylvie, je veux dire, le temps des libérateurs est terminé, ils sont en train de mourir et il faut inventer autre chose, mais c'est très compliqué de fait. Enfin, on va peut-être y venir après, mais l'équilibre qui a prévalu pendant 20 ans est extrêmement fragile. Et pour nous Français, je pense qu'on a intérêt à se taire le plus souvent possible, enfin en tout cas quand on est le gouvernement, parce qu'évidemment toute parole française serait mal perçue, mais il y a un risque considérable. Un risque migratoire d'abord, parce qu'il y a une demande de visa aussi dans ces mouvements, on entend ces demandes-là. Un risque géopolitique, parce qu'on est présent au Mali et la frontière sud-algérienne est extrêmement importante pour nous. Et puis un risque interne, on a aujourd'hui sur le sol français près d'1 million d'électeurs algériens et probablement 2 ou 3 millions de gens issus de la migration algérienne. Et on sait très bien que dans les années 90, ça nous avait valu des troubles importants.
Dominique Schnapper, il y a en effet un très grand silence de la France face à ces mouvements algériens et en même temps, on l'entend, on le lit, une très grande inquiétude.
Je pense que là, le gouvernement a vraiment raison de ne pas intervenir, parce que quoi qu'il fasse, ce serait mal, je veux dire. Soit c'est de l'ingérence, enfin ce sera compris comme de l'ingérence, mais l'inquiétude, elle est là. Il y a entre la France et l'Algérie une relation quasiment familiale, enfin avec des passions extrêmes dans un sens et dans l'autre. On dit toujours que les Algériens maintenant détestent la France, mais enfin, ils sont plus d'un million. On ne connaît pas bien les chiffres de la diaspora, parce que les gouvernements n'aime jamais donner les chiffres des diasporas. Enfin, on sait qu'il y a beaucoup de franco-algériens et le match de football avait montré que les Français d'origine algérienne mais nés en France restaient très très proches identitairement de l'Algérie. Donc, il y a le phénomène de la diaspora, il y a le phénomène des mouvements subsahariens. Donc, ce qu'en effet le gouvernement peut faire de mieux, c'est de regarder ce qui se passe, d'être vigilant et de ne pas intervenir. J'aurais juste dire un mot sur ce problème de la légitimité, enfin du décalage qu'il y a entre une légitimité du gouvernement qui remonte à l'indépendance, parce que Bouteflika est le dernier représentant des indépendantistes. Et il reste là comme une espèce de symbole. Oui, on dit qu'il est mort, enfin, il y a toutes sortes de nouvelles qui passent, mais enfin, il est là comme symbole de l'indépendance, alors que le problème de l'indépendance, pour les jeunes générations, n'a plus aucun sens. Déjà, semble-t-il, la mémoire de 90 et de l'horrible guerre civile, des 200 000 morts, ne dit pas grand-chose aux nouvelles générations, mais en tout cas, l'indépendance, plus du tout. Donc, il y a vraiment un décalage entre ce qui est invoqué par Bouteflika comme symbole de la légitimité politique et la réalité de la société. Et puis, il me semble qu'il faut insister sur le drame qui est la rente pétrolière, c'est-à-dire qu'on a un phénomène qui est un peu l'or des Espagnols, qui a ruiné l'Espagne et développé l'Europe du Nord. J'ose pas en parler devant Daniel Cohen, mais il me semble que là, on a vraiment la source du fait qu'au lieu de développer une économie, de reposer sur le travail des hommes, on repose sur les rentes données par l'État, et que c'est comme ça que on ne développe pas une société, surtout une société aussi jeune.
C'est pour ça qu'on a intitulé ce débat « Histoire d'un gâchis », Daniel Cohen, avec en effet cette situation économique algérienne qui fait que certains économistes placent ce pays dans la zone rouge, celle de l'explosion imminente, avec notamment des finances publiques qui sont aujourd'hui exsangues.
Oui, parce qu'en effet, comme le disait parfaitement Dominique à l'instant, c'est une économie qui souffre de ce que les économistes appellent « the resource curse », hein, c'est-à-dire la tragédie des matières premières. Dans tous les pays, ou presque, il y a quelques exceptions, où l'économie dépend d'une rente pétrolière, gazière, ce qu'on voudra, le reste de l'économie est étouffé. Dans des proportions diverses. Les seules exceptions connues, c'est la Norvège, bon, et puis le Botswana, qui savent transformer cette rente, celle des diamants dans le cas du Botswana, en des investissements publics qui profitent à tout et qui, au fond, élèvent le niveau de satisfaction de l'ensemble des personnes et l'efficacité, la productivité de l'économie. Dans tous les autres cas, et on pense évidemment à tous les pays que vous voudrez, au Moyen-Orient, mais la Russie est un très bon exemple aussi de cela.
Et au Venezuela.
Et le Venezuela. Là, exemple, hélas, pour cette population archétypique de ce problème, l'économie est étouffée. Elle est étouffée économiquement et elle est étouffée politiquement. Elle est étouffée économiquement parce que, au fond, comme vous le disiez très bien, on va pas s'embêter à travailler quand c'est beaucoup plus rentable de devenir un affidé du pouvoir, de bénéficier des subsides de la fonction publique ou de l'État en direct, ce qui fait que pour cette population algérienne, celle qui est éduquée, il n'y a rien d'autre à faire que faire la liste d'attente pour avoir un visa qui permette de quitter le pays ou la liste d'attente pour avoir un poste de fonctionnaire. Donc on est dans une situation où il n'y a pas de dynamisme de l'économie. Le taux de participation active dans cette économie est moins de 40%. C'est-à-dire deux fois moins qu'à peu près partout ailleurs dans le monde. Je parle évidemment de taux de participation des gens en âge de travailler. Il n'y a plus d'industrie. Il y avait encore un secteur industriel. Aujourd'hui, c'est moins de 5%. Il n'y a plus d'agriculture. Et donc l'économie vit au gré de la rente pétrolière, avec les inconvénients que je suis en train de décrire. Et le deuxième inconvénient, c'est celui qui nous ramène au Venezuela, c'est que le pétrole est très volatile, et donc selon les circonstances, on a beaucoup d'argent et on ne sait pas trop quoi en faire, et ça nourrit évidemment la corruption, c'est le drame politique. Et puis tout d'un coup, le prix du pétrole tombe, et à ce moment-là, il faut tout refermer. On a une crise des finances publiques partout, au Venezuela, comme en Algérie, avec ce retournement du prix du baril en 2013-2014, qui a produit exactement les mêmes effets, c'est-à-dire qu'il a rendu le pouvoir exsangue. Alors le pouvoir algérien est un peu plus prudent que le pouvoir vénézuélien, c'est-à-dire qu'il a accumulé, alors vraiment pour le coup comme les Espagnols, des réserves de change, mais qui faisaient la risée du monde. Il y avait deux années de PIB en cash qu'il n'était même pas capable de redistribuer, parce que il voulait le garder comme un trésor pour les mauvaises années. Ils sont venus, mais ça y est,
aujourd'hui, il n'y a plus de réserves de change.
Elles sont elles-mêmes réduites des deux tiers aujourd'hui, et donc on est à la limite de ce qui est soutenable. Donc une économie totalement pathologique qui crée une frustration considérable, avec ce paradoxe qu'on retrouve aussi dans d'autres dictatures en réalité, qui est que le taux de chômage dans ces économies, il est croissant avec le diplôme des populations, ce qui en général est l'inverse à peu près partout ailleurs, parce qu'on a mis dans des universités ces jeunes qu'on ne savait pas très bien comment utiliser, et donc on a d'immenses réservoirs de frustration ensuite, parce qu'ils ne trouvent pas pas de déboucher dans la société civile. Et puis, de l'autre côté, bon, vous en avez beaucoup parlé, évidemment, cette frustration, elle est étouffée par la peur. La peur, en effet, de ce qui s'est passé il y a 20 ans, de cette guerre civile qui a fait 150 000, je sais pas combien de morts. Et qui fait que ce régime a pu tenir à coup de subventions et de peur. Pendant toutes ces 20 années du régime Bouteflika, Bouteflika élu en 99 pour mettre fin à la guerre civile, ce qu'il arrive en effet à faire, donc qui est le symbole de cette pacification, entre guillemets, de la société. Entre cette frustration et la peur, une espèce d'équilibre a été tenu, malgré les aléas des coups du baril de l'économie. Et je crois que ce qui est le plus touchant dans cette situation, c'est que ce qui a fait sortir les gens dans la rue, c'est cette incroyable humiliation publique qu'ils ont subi, au-delà de l'aspiration démocratique qui est là, qui, bien entendu, affleure partout, comment on veut, voilà, on veut exister individuellement et collectivement, mais cette humiliation incroyable de ce régime qui est incapable de se renouveler, de proposer autre chose à la population et au monde que le renouvellement de ce vieillard qui, depuis son AVC de 2013, n'a fait, je crois, aucune déclaration publique. On le voit.
On n'a plus parlé depuis 2012.
Voilà, c'est ça.
Il y a des apparitions muettes.
Voilà, on le voit essayer de toucher le drapeau, cette image qui passe, etc. Et donc, que ce régime n'arrive même pas à s'entendre sur un successeur, parce qu'on comprend pourquoi, parce que moi je comprends bien ce que j'ai lu dans la presse depuis le développement de cette histoire. Il y a trois personnes qui tiennent le régime, le frère de Bouteflika, le chef d'état-major qui a lui-même 70 ans, et puis le chef des services secrets formé par le 79. KGB, qui ne peut pas apparaître non plus comme candidat. Donc ces trois personnes ne sont pas capables de trouver un quatrième, et donc imposent cette humiliation suprême. C'est pour ça que ces manifestations sont dignes et en retenue, parce que c'est quelque chose d'autre que simplement la faim ou l'agacement. Il y a quelque chose de leur dignité intérieure qui est troublée, et c'est cette dignité que dans ces manifestations de rue, d'une certaine manière, le peuple algérien, je crois, essaye de retrouver.
Un palais peuplé de courtisans, de clans, de clowns et de courtiers, une fausse république, un royaume tentaculaire, écrit ce matin dans Le Monde Kamel Daoud à propos de ce pouvoir algérien. Sylvie Kaufmann, en rebond à ce que disait un instant Daniel Cohen, qu'est-ce qu'on sait de la réalité de cette menace islamiste qui fait tenir justement ce gouvernement par la peur?
Ce qu'on sait, c'est que l'islamisme a été intégré en fait dans le système du pouvoir. Et que par ailleurs, la religion est devenue très présente dans la société. Ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est imposé depuis la fin des années 90. Je crois qu'il y a 17 000 mosquées. Il y a une multiplication de la construction des mosquées, par exemple, est visible, et une religiosité qui s'est incrustée partout dans la société. Après, quel est le poids politique, quelle est la forme politique que ça peut prendre maintenant, puisque les partis sont en fait intégré donc au système, au pouvoir. Je ne sais pas, mais je crois que tous les Algériens qui sont dans la rue en ce moment ont ça présent à l'esprit. Mais comme je voudrais revenir sur le thème de la peur, c'est vrai que la peur est partie. Elle est vaincue d'une certaine manière. Mais il y a quand même une certaine appréhension parce qu'on ne voit pas, dans les. Enfin, il y a plusieurs scénario possible.
On voit pas l'étape d'après.
Oui, on voit pas l'étape. C'est-à-dire là, on est dans une étape où on est sur le court terme. On veut déjouer une menace immédiate qui est celle de la candidature de ce vieillard qui est invisible et muet. Mais après, que se passe-t-il? Est-ce que ce pouvoir, ce que vous avez décrit, cette espèce d'armée-État, système corrompu, est capable de produire un successeur alors qu'il n'a pas été capable jusqu'ici? Est-ce que il n'y a pas de leader alternatif évident? Est-ce que les manifestants qui sont en effet qui font preuve d'une remarquable maîtrise, d'une discipline, d'un pacifisme qui est exemplaire pour tout le monde, je n'irai pas plus loin.
Si, allez plus loin. Non, mais allez-y, dites-le. On aurait aimé voir des manifestations.
On aurait aimé avoir ce genre de discipline en France, d'autodiscipline réellement, et de sens de la mesure et de la responsabilité. Est-ce qu'ils vont se contenter de demi-mesures? on ne le sait pas et je crois que personne ne le sait actuellement. On voit que les gens sont tellement conscients de la joie et de l'importance de se retrouver dans une telle diversité, une telle mixité, tous ensemble dehors à s'exprimer librement, que on a l'impression qu'ils ne sont pas encore en train de construire autre chose. Est-ce qu'ils ont les moyens? Je ne sais pas. Est-ce que les quelques, on voit qu'il y a des fissures dans le régime, par exemple au sein du patronat, au sein de certaines organisations d'anciens combattants, il y a déjà des défections qui sont enregistrés et qui ne sont pas négligeables du tout. Est-ce que ça va aller plus loin? On voit que le pouvoir est assez paralysé parce que qu'est-ce qu'il y a eu comme réaction en réalité du pouvoir depuis que ce mouvement a commencé, depuis le 22 février? Il y a eu cette proposition formulée par Bouteflika, on ne sait pas si elle émane de lui ou pas, qui était élisez-moi et ça ne durera qu'un an, j'organiserai d'autres élections et je ne serai pas candidat. Visiblement, ça n'a personne eu aucun effet, personne n'y croit. Deuxième réaction, attention, ça c'était avant la manifestation du 8 mars, attention, il y a des infiltrations, ça va mener au chaos. Donc là, ils ont essayé de jouer sur la peur. Ça n'a pas marché, les gens sont sortis encore plus nombreux qu'avant. Maintenant, il y a cette fermeture des universités. 2 semaines avant les vacances et 4 semaines de vacances. Pour la première, c'est assez étrange, mais les étudiants ne veulent pas les vacances, ils veulent rester à la fac.
Et ils sont disponibles pour manifester aussi.
Et ils continuent à manifester, donc ça ne marche pas non plus.
Au contraire, ils sont disponibles.
Voilà, donc maintenant qu'on voit très bien que ce régime ne sait pas comment réagir en réalité. Voilà, donc...
Thierry Pêche, vous vouliez réagir?
Oui, non, mais il y a un facteur dont on ne parle pas assez, qui est le facteur démographique. Je l'ai évoqué très rapidement, mais il éclaire beaucoup de ce qui a été dit. Lorsque De Gaulle s'adresse aux Français d'Algérie et aux Algériens, à l'époque, il n'y a pas de différence dans son vocabulaire en 58, il parle à 10 millions de personnes. Au début des années 80, il y a 20 millions d'Algériens. Aujourd'hui, il y en a 40 millions. Imaginez ce que c'est. C'est une population qui a doublé en 20 ans entre 1960 et 1980, puis qui a doublé à nouveau dans les 30 années qui ont suivi. La conséquence de ça, c'est que c'est une population extrêmement jeune. Vous avez 50% des Algériens qui ont moins de 28 ans. Eh bien, il y a 28 ans, ceux qui sont nés il y a 28 ans sont nés juste après le printemps de 88. Donc ça a deux conséquences majeures. La première, c'est qu'il y a peu de gens pour être sensibles aux appels de la mémoire. C'est des choses qu'ils n'ont pas vécues, c'est des choses qui leur paraissent très éloignées, comme à nous peut paraître éloigné, je ne sais pas, le Front populaire. Et la deuxième chose, c'est que vous avez, c'est ce qu'a dit Daniel, c'est des gens à qui on a fait faire beaucoup plus d'études qu'à leurs parents et leurs grands-parents. Donc vous avez un réservoir de frustration qui est considérable. Ce que Mannheim appelait les intellectuels désencastrés, pour expliquer un certain nombre de révolutions, notamment la nôtre, la Révolution française. Il y avait là une jeunesse relativement éduquée qui ne trouvait pas son emploi, son équivalent de pouvoir, si vous voulez, dans la société. 1917, il y a également en Russie des intellectuels désencastrés. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'intellectuels désencastrés dans tout le monde arabe, et singulièrement en Algérie. Et c'est une des clés du mouvement qui est en train de se produire, mais il faudrait qu'il trouve son débouché.
On avait en Égypte aussi.
La démographie et l'enjeu de mémoire, justement, pour terminer cette première partie, je voulais vous faire réentendre Dominique Schnapper, une archive qui date de 1981. Raymond Aron, votre père, donc, revient sur ce qu'avait provoqué en 1957 la publication de son livre, La tragédie algérienne, une sorte de pamphlet dans lequel il défendait le principe de l'indépendance, non pas pour des raisons morales, mais pour des raisons économiques et déjà démographiques.
Cette brochure a été taillée en pièces, critiquée de manière passionnelle. On me reprochait d'accepter l'indépendance algérienne et de justifier l'indépendance algérienne par des nécessités contraignantes. On me reprochait de ne pas employer le langage de l'idéologie, de ne pas condamner d'une manière solennelle la colonisation en tant que telle, mais de prendre le problème tel qu'il était. On avait le choix en maintenir pendant des années l'Algérie française par l'intermédiaire d'une armée, avec une protestation de plus en plus violente de la part d'une partie de la nation française, ou bien on trouvait une solution politique. Et il n'y avait que deux solutions politiques durables possibles. Ou bien l'indépendance de l'Algérie, ou bien l'Algérie partie intégrante de la France. Or, si les 30 à 40 millions de musulmans sont partie intégrante de la France, la Chambre des députés, l'Assemblée nationale, sera composée de 40%, 50% de musulmans, ce qui était impensable.
Voilà ce clin d'œil mémoriel que je vous avais préparé de Dominique Schnapper. Est-ce qu'aujourd'hui on est encore aussi dans ces enjeux mémoriels avec cette crise algérienne, ces mouvements algériens? Est-ce que ce à quoi on assiste est aussi une Algérie qui se réveille d'un long sommeil pour réaffronter de nouveau ces fantômes-là?
L'Algérie a eu le malheur d'être influencé tout de même par le modèle soviétique au moment de son indépendance, ce qui, du point de vue de son développement économique, a été catastrophique et a créé une espèce de soviétisme dernière formule. Et ensuite, elle a connu l'islamisme. Et ce qui est très frappant, c'est le retour du rapport aux femmes dans l'Algérie contemporaine par rapport à ce qu'avait été leur participation au mouvement d'indépendance sur lequel il y avait eu comme ça plusieurs femmes politiques qui avaient vraiment participé très activement. Et les rues de l'Algérie maintenant sont avec des femmes voilées et retour à une forme d'islamisme. Alors entre successivement le soviétisme, où nous avons notre part de responsabilité, parce que les responsables de l'indépendance, les hommes politiques de l'indépendance algérienne avaient été formés dans nos universités. Sans doute il y en avait pas mal, un certain nombre à Moscou, mais il y en avait aussi dans nos universités où on leur expliquait que le plan, c'était quand même la meilleure façon de gérer l'économie. Et donc l'absence d'entrepreneurship qu'on peut déplorer aujourd'hui et que Daniel a développé tout à l'heure remonte aussi à une certaine trahison intellectuelle du début de l'indépendance. Et puis l'islamisme est venu là-dessus. Je voudrais juste ajouter un mot, c'est que les réseaux sociaux dont nous sommes, enfin en tout cas moi, je suis très sensible au danger. Par ce lieu sans contrôle qui laisse se développer des formes de haine. Dans le cas de l'Algérie, semble-t-il, joue un rôle tout de même positif puisque c'est justement un lieu de liberté là où il n'y en a pas. Et donc, chez nous, risque d'être le lieu du débordement de la haine, mais chez eux, apparemment, c'est un lieu d'une certaine liberté.
J'ai vu une affiche brandie par des manifestants qui disait « Pays connecté égale système déconnecté ». C'est bien sur le rôle de ces réseaux sociaux dans ces événements.
Pas mal, jolie formule. Pour conclure cette première partie, on va maintenant, si vous voulez bien, revenir en France. Cap sur les élections européennes, c'est dans moins de 3 mois. Et le débat qui semble s'enclencher, enfin, timidement, notamment entre Emmanuel Macron, via sa lettre aux Européens publiée cette semaine, et la réponse de Laurent Wauquiez hier dans Le Monde.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
La tribune d'Emmanuel Macron avait donc été publiée mardi dernier dans les journaux de 28 pays de l'Union européenne. Très ambitieuse opération de communication transfrontière visant à s'adresser directement aux citoyens européens, toujours ce trait macronien du face-à-face avec le peuple, à moins de 3 mois des élections. On y trouvait enfin le programme de La République En Marche pour la campagne qui tardait à démarrer, avec notamment les propositions suivantes: remettre à plat l'espace Schengen, mettre en place une police des frontières communes, poser le principe d'une solidarité européenne en matière d'asile, à laquelle chaque pays devait contribuer, instaurer un conseil de sécurité européen, avec la Grande-Bretagne, sans doute post-Brexit, instituer une préférence européenne en matière commerciale, une supervision européenne des GAFA, créer une agence européenne des démocraties avec interdiction notamment que des puissances étrangères participent au financement de partis politiques nationaux. Tout cela dessinait au fond une Europe un peu sur la défensive, une Europe de la sécurité et de la protection, disait-on, qui pour certains n'avait plus grand-chose à voir avec le projet européen du président tel que formulé lors du discours de la Sorbonne de septembre 2017, plus ambitieux et plus fédéraliste. Ce nouveau projet européen du président de la République avait amené le président des Républicains, Laurent Wauquiez, à formuler lui-même quelques jours plus tard, c'est-à-dire hier, par tribune interposée, sa vision de l'Europe. Tandis que sa tête de liste, François-Xavier Bellamy, précisait lui aussi ce matin dans le journal du dimanche une opposition de principe avec le chef de l'État, refusant par exemple la remise à plat de Schengen et réclamant lui une double protection des frontières européennes, mais aussi toujours à l'échelon national. En clair, ne pas transférer notre souveraineté à un échelon européen. L'ensemble du programme des Républicains qui devait être présenté le 16 mars prochain. Le débat d'idées s'amorçait donc, enfin. Emmanuel Macron tentait de reprendre la main sur cet enjeu européen dont il avait fait un élément central de sa campagne présidentielle et de son quinquennat. Mais Emmanuel Macron avait-il encore les moyens de jouer les supermans de l'Europe? Avec qui
et avec quel super pouvoir.
On est frappé de voir à quel point effectivement le président de la République aujourd'hui semble infléchir son discours sur l'Europe, au point qu'on se demande qui est le vrai Emmanuel Macron. Est-ce que c'est celui qui, dans le discours de la Sorbonne, dans le discours d'Athènes, nous disait que ce qui comptait c'était de transférer la souveraineté nationale vers une souveraineté européenne? Ou bien est-ce que c'est celui qui aujourd'hui nous parle d'une Europe qui protège, en reprenant effectivement des mots qui nous paraissent essentiels? Mais derrière les mots, il y a les actes.
Je crois qu'il y a une certaine duplicité dans la parole et l'action surtout d'Emmanuel Macron. Est-ce que l'Europe protège quand elle ne cesse de signer des accords de libre-échange à tour de bras et organise un grand déménagement du monde de produits qui viennent de l'autre bout de la planète? Est-ce que l'Europe protège quand elle autorise le glyphosate? Est-ce que l'Europe protège les droits humains quand elle ne cesse de rejeter à la mer les exilés qui arrivent sur le sol européen et plus de 2000 morts en Méditerranée? Donc je pense qu'il ne faut pas être dupe face à ces beaux mots d'Emmanuel Macron.
Voilà, et vous aurez reconnu bien sûr la voix familière dans ce studio de François-Xavier Bellamy, désormais candidat Les Républicains, et celle de Manon Aubry, candidate France Insoumise. Thierry Pêche, est-ce qu'Emmanuel Macron, vous semble-t-il, est en train de revoir totalement sa doctrine européenne?
Non, je crois pas. Mais avant de discuter les propositions d'Emmanuel Macron, de se prononcer sur les reproches qui lui sont faits, je crois qu'il faut bien comprendre le sens de ce qu'il a voulu faire. Et je vais vous dire comment moi je le comprends. Tout se tient dans les deux premiers mots de la tribune, citoyen d'Europe. Personne n'est citoyen d'Europe. On est citoyen de la République française, on est citoyen de la République fédérale allemande, on n'est pas citoyen d'Europe. Il n'y a pas un peuple européen, parce qu'il n'y a pas de constitution européenne, il n'y a pas de communauté politique au sens juridique du terme. Le vrai dépassement doctrinal auquel procède Emmanuel Macron, c'est ça. C'est postuler l'existence d'un peuple européen en s'adressant à lui directement et en lui disant, et c'est ça la nouveauté semble-t-il pour moi de cette tribune, vous formez une communauté d'abord parce que vous êtes confronté à des menaces communes. L'Europe n'est pas regardée dans cette tribune contre elle-même, à partir de ses clivages habituels, droite contre gauche, souverainiste contre fédéraliste, sud contre nord, à travers ses différents formats, Visegrad contre Occident, etc. Elle est regardée comme un tout constitué d'abord par les menaces qui pèsent sur elle. Menaces de cyberattaques russes, menaces climatiques, menaces de Chine et des États-Unis, parce qu'il y a là des appétits sur nos entreprises les plus stratégiques. En gros, Emmanuel Macron dit aux Européens, ressaisissez-vous, que vous le vouliez ou non, vous faites un tout, parce que vous êtes regardé comme tel par un certain nombre de menaces extérieures. Et donc, il va falloir faire ensemble. C'est pas tellement qu'il faut faire ensemble parce que c'est bien de faire ensemble. Il va falloir faire ensemble parce qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est ça le message. Et donc, vous formez une communauté d'épreuves. C'est une façon, d'une certaine manière, de se mettre à l'échelle de l'histoire, parce que tout ça est vrai. Ces menaces existent. Alors après, on pourra discuter des réponses. Est-ce que la refondation de Schengen... D'abord, bon, on est à un niveau de généralité qui rend la discussion difficile, parce que, par exemple, sur cette question de la remise à plat de Schengen, on a beaucoup dit c'est le programme de Sarkozy de 2012. Quand on regarde dans le détail, je ne crois pas. Quand il dit « ne ferons partie de cette communauté Schengen », que ceux qui accepteront à la fois la solidarité et la responsabilité, il met sur la table deux notions qui n'étaient pas exactement l'idée que s'en faisait Nicolas Sarkozy. En particulier, par exemple, la solidarité, il faudra qu'on ait le même droit d'asile, plus exactement les mêmes procédures d'exécution du droit d'asile qui est contenu dans la Convention de Genève. Il dit quelque chose qui était sans doute pas très sarkoziste, mais où on retrouve d'ailleurs l'équilibre de la campagne de 2017 sur cette question. Vous savez combien j'y étais sensible. Émilie Aubry sourit, elle a le souvenir d'épisodes qui ont été parfois un peu dur. Bon. Donc voilà, je pense que cette tribune, elle est assez nouvelle pour cette raison-là. Elle regarde l'Europe depuis le monde et pas depuis ses chamailleries, ses grognonneries internes.
Daniel Cohen, je vous entendais réagir à ce que formulait François-Xavier Bellamy à propos de cette tribune présidentielle. Vous sembliez en accord avec ses critiques quant à ce que lui appelle un changement de posture doctrinale du chef de l'État sur ces enjeux européens.
Oui, en accord sur l'observation avec que c'est un changement, en accord avec l'idée que c'est un changement doctrinal de la part d'Emmanuel Macron, je crois. On est très loin, en réalité, du discours de la Sorbonne. Et au fond, Thierry le dit à sa manière. Pardon.
On est passé d'une vision offensive de l'Europe dans le discours de la Sorbonne, où il s'agissait de repenser l'Europe positivement. Le cœur du réacteur dans le discours de la Sorbonne, c'était l'euro, la zone euro. Comment la faire fonctionner avec un budget? Il était question aussi de réfléchir aux instances démocratiques qui permettaient de faire que cette zone euro, qui est gouvernée dans les réunions privées de l'Eurogroupe, puisse s'ouvrir à une parole, à un espace démocratique, un parlement de la zone euro pouvait constituer. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait rêver à partir de ce moment-là, que enfin la zone euro puisse disposer non seulement d'un budget, non seulement d'un parlement, mais de moyens de sa propre puissance, avec une fiscalité, avec un budget, etc., etc. Et par rapport à ça, on a totalement changé de braquet. Alors c'est vrai qu'il y a un extraordinaire culot de venir avec une gerbe d'institutions, vous les avez citées, enfin il y en a une à toutes les lignes, quoi. Une agence européenne de protection des démocraties, un conseil...
Il y en a moins que dans le discours.
Oui, mais c'est des choses qui surgissent de nulle part, en un certain sens. C'est-à-dire qu'il y avait une cohérence, on va dire, un peu fédéraliste dans le discours de la Sorbonne, qui là, aujourd'hui, fait que surgissent des institutions dont on n'est pas capable, d'abord, de dire si elles seront, dans les mains de la Commission, ou si c'est intergouvernemental. Et on ne sait pas, surtout, sur qui ils comptent s'appuyer pour les mettre en œuvre. Parce que on s'adresse aux citoyens d'Europe, mais, en fait, concrètement, c'est qui? On a beaucoup de mal à voir les contours de ce qui pourrait constituer une coalition autour de ces propositions. Et donc je trouve que derrière ce culot, et au fond c'est vrai, de redonner la liste de toutes les choses que l'Europe pourrait faire si seulement elle le voulait, c'est-à-dire lutter contre le climat, lutter contre les cyberattaques, lutter contre ce qu'on voudra, les infractions à la démocratie, en réalité, moi, il me semble que derrière tout ça se cache un échec, celui que Emmanuel Macron incarnait quand il est venu au pouvoir. Ça n'est pas son échec propre, je m'empresse de le dire, c'est l'échec de ce moment où on croyait qu'enfin l'Europe allait disposer, avec Madame Merkel, d'une coalition susceptible de créer une rupture dans la manière dont, encore une fois, elle puisse se gouverner, notamment au sein de la zone euro. Ça n'a pas marché. Parce que son budget a été rejeté, parce qu'il s'est bien rendu compte que, en fait, la Commission elle-même n'était pas son alliée dans cette affaire, puisque lui voulait créer de nouvelles institutions qui séparent un peu la zone euro du reste de l'Europe et que la Commission ne voulait pas en entendre parler. Bref, toute la construction de départ s'est effondrée au cours des 3 dernières années. L'Europe est même obligée, enfin la France est même obligée toute seule de faire une taxe sur les GAFA, alors que ça paraissait pas très compliqué de s'entendre sur quelque chose d'à peu près évident. Éviter la fuite fiscale des ressources de ces grands géants de l'Internet. Donc, oui, il est obligé d'une certaine manière de tout reprendre. Encore une fois, je précise, ça n'est pas son échec personnel, c'est beaucoup plus l'échec de l'Europe, l'échec de cette recherche d'alliance. L'Italie, qui était l'allié permanent de la France dans toutes ces histoires, a disparu. L'Allemagne, qui était l'interlocuteur, va ailleurs parce que Madame Merkel est beaucoup plus faible. Les pays du Nord ne veulent pas entendre parler de tout ça. Il y a le Brexit au milieu de tout ça, qui est le seul élément un peu positif, parce qu'en effet, ça a rapproché les Européens de l'Europe quand ils ont vu tout ce que ça signifiait de vouloir en sortir. Donc c'est un élément négatif qui est un peu d'ailleurs dans la démonstration aussi, ne faites pas comme les Anglais qui ont voulu sortir et qui mesurent tout le poids de ça. Mais au bout du compte, je crois que avec le recul, on est obligé de dire que par rapport aux ambitions de départ, ce texte, aussi brillant et étincelant de propositions qu'il soit, est en réalité une formidable reculade.
Pour vous aussi, Dominique Schnapper, ce texte, c'est une reculade, en tout cas c'est un changement de cap. Ça s'appelle comment? Du pragmatisme, de la réelle politique, de se concentrer finalement sur tout ce qu'il reste de l'Europe, son plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire l'envie de sécurité et de protection.
Oui, je dirais un petit peu dans d'autres termes, je poursuivrai tout à fait l'analyse de Daniel, parce que ce texte dit la liberté, la protection, le progrès, mais en réalité, il porte sur la protection, pratiquement d'un bout à l'autre, il se conclut sur la protection. Et effectivement, en 18 mois, la situation a beaucoup changé. Pour faire l'Europe, parce que c'était quand même le projet fédéraliste qui a été repris, c'était le projet d'origine, parce qu'à l'origine c'était un projet politique, l'Europe, et c'était un peu repris dans le discours de septembre 2017, mais on fait pas l'Europe tout seul, et il n'a pas eu
De partenaires.
De partenaires avec lesquels le construire. Alors, ce que le Brexit a montré, c'est combien les économies sont imbriquées l'une dans l'autre. Et ça, c'est vrai que c'est une réalité. Quand on voit la carte du monde, le morcellement des pays européens paraît vraiment une absurdité par rapport, la Chine, la Russie, et le projet d'unir l'Europe paraît à tout point de vue raisonnable. Mais, comme l'a dit tout à l'heure Thierry, il n'existe pas pour l'instant un peuple européen. Il a fallu d'ailleurs des siècles pour construire un peuple national, je veux dire, pour donner une conscience politique dans les nations. Sur l'Europe, pour l'instant, il n'y a pas de... Et je me demande jusqu'à quel point on peut construire une entité politique sur la base de la protection et des menaces. Parce qu'en général, on construit les entités politiques sur un projet positif. Il y a quelque chose d'un petit peu négatif dans la protection et les menaces communes. Et ce que montre ce discours, on peut discuter dans le détail, mais en gros, c'est tout de même regarder le monde et regarder comme il faut que nous soyons unis sur un certain nombre de valeurs communes. Et on le souhaiterait et on voudrait le suivre, mais on s'inquiète de la possibilité de construire quelque chose comme une entité politique avec un certain nombre de valeurs communes et assez de volonté commune pour les appliquer à partir simplement de la protection des populations et des menaces du grand monde.
Ce qu'on a bien vu en tout cas cette semaine, en effet, vous l'avez rappelé Sylvie Kaufmann dans un article de votre journal Le Monde, c'est la solitude et l'isolement de ce président français. Quand bien même il change son discours européen, vous rappeliez finalement que tout ce qui fonctionnait avant en termes de coordination inter-État n'existait plus, ou en tout cas était défaillant, évidemment à commencer par le couple franco-allemand, mais on pourrait citer également le groupe des six pères fondateurs de l'Europe, le lien France-Grande-Bretagne évidemment malmené par la possibilité imminente du Brexit, et puis toutes ces nouvelles alliances, le groupe de Visegrad, la nouvelle ligue hanséatique. Il est l'homme malade de l'Europe, comme le dit Laurent Wauquiez en ce moment, aujourd'hui, Emmanuel Macron.
Non, je crois qu'il prend acte, en effet, du fait que tous ces formats traditionnels ne fonctionnent plus. De la même manière que sur la scène politique intérieure, il a pris acte aussi, et à son avantage, pour son élection, du fait que les dispositifs des partis classiques ne marchaient plus non plus et qu'il fallait partir sur autre chose. Le problème, c'est évidemment comment définir cette autre chose, comment trouver ces nouvelles, comment formuler ces nouvelles alliances, quels alliés trouver. Donc, c'est vrai que par rapport à son initiative de la Sorbonne, il y a d'abord ce constat d'échec du pas seulement du franco-allemand, mais du fait qu'il n'a pas eu le partenaire allemand qu'il espérait et sans lequel il ne pouvait pas...
Ni les autres,
absolument. Mais il avait tout tablé d'abord sur son partenariat avec l'Allemagne. Et puis Angela Merkel s'est retrouvée enlisée dans ses négociations sans fin après ses élections pour former après son élection, les élections de septembre 2017 pour former une coalition gouvernementale. Et tout ça, donc, toute cette dynamique qui avait été créée par la Sorbonne, par le discours de la Sorbonne... a été tué dans l'œuf. Une autre chose qui justifie cette deuxième initiative, si je peux me permettre, c'est qu'il y a des élections le 26 mai au Parlement européen. Et donc, bien sûr, c'est une lettre aux citoyens d'Europe. Je pense que c'est d'abord une lettre aux citoyens de France et aux électeurs, par ailleurs. Et puis, il y a une troisième chose qui est que depuis deux ans, enfin depuis le discours de la Sorbonne, depuis 18 mois, l'environnement international s'est quand même considérablement dégradé. Et je crois que ce sentiment de menace qui pèse sur l'Europe n'est pas, c'est pas juste une formule, c'est une réalité que partagent pour le coup énormément de dirigeants européens. Et la plupart des réactions qu'il y a eu au niveau européen, il n'y en a pas eu énormément, je crois qu'ils sont assez perplexes par ce foisonnement. Ont été un peu perplexes face à ce foisonnement d'initiatives assez désordonnées. Ils partagent tous ce diagnostic de la gravité de la situation internationale, des menaces, pas seulement de la Chine, mais aussi des États-Unis. Ça, c'est quand même quelque chose de nouveau, qui est que l'Europe doit se protéger à l'égard des États-Unis. Donc, et vous parliez de la réaction de Laurent Wauquiez dans cette tribune que Le Monde a publiée, en effet. Il y en a une autre que je trouve beaucoup plus intéressante, qui est celle de la nouvelle nouvel chef de la CDU allemande, qui est appelé à succéder normalement à Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, qu'on appellera plus facilement AKK, et qui a publié hier soir sa réponse, et qui est une réponse beaucoup plus structurée que celle de Laurent Wauquiez, je dois dire, il y a beaucoup plus de contenu. Elle renvoie Emmanuel Macron dans ses filets sur un certain nombre de propositions, notamment celle d'un salaire minimum commun, ça le dit, il n'en est pas question. Sur le modèle social, elle est évidemment beaucoup plus prudente, elle ne veut surtout pas de mutualisation des dettes, je ne veux pas de centralisme européen ni d'étatisme européen. Mais sur Schengen, elle fait elle-même ses propositions sur l'immigration et elle part surtout du même diagnostic qui est, il y a urgence, en effet, nous faisons face à des menaces communes et il faut absolument remettre l'Europe sur ses pieds et aller de l'avant.
Un dernier mot avec vous, Thierry Pech, sur une autre donnée de cette nouvelle campagne européenne d'Emmanuel Macron. Vous savez qu'il a reçu la télévision italienne, Rai Uno, pour une interview dont on a beaucoup dit qu'on y avait vu changer complètement aussi de registre. Il n'est plus question de parler de lèpre nationaliste. Il n'a pas cité une seule fois Matteo Salvini. Il était dans un discours beaucoup plus pacifique, apaisant, inclusif. Est-ce que cela veut dire aussi qu'Emmanuel Macron est en train de renoncer à cet affrontement dont on disait qu'il le souhaitait beaucoup en vue de cette campagne électorale, à savoir l'affrontement un peu binaire d'un côté entre progressistes, de l'autre avec les conservateurs?
Non, je crois que ça ne veut pas dire ça du tout, parce que ça, c'est, qu'on le veuille ou non, c'est le fond de tableau du moment européen dans lequel on se trouve. Il y a des forces populistes partout en Europe qui vont croissant, qui prennent le vent dans leur voile, et donc ça fait partie de l'équation politique. Je pense simplement que la meilleure façon d'avoir ce combat avec les populistes, c'est de ne pas le désigner, c'est de ne pas le dire. C'est d'aller en Italie, de parler aux Italiens, effectivement, de façon apaisé en ignorant les provocations lamentables de Salvini et en évitant la surenchère verbale, rhétorique dont les hommes politiques français sont malheureusement tristement coutumiers aussi. Alors, je voudrais revenir sur un point, ce que Daniel appelle reculade à la fin de son intervention et ce que Dominique nomme de la même façon avec d'autres mots. Pour moi, c'est un progrès. Je n'étais pas du tout enthousiaste, personnellement, au moment du discours de la Sorbonne ou du discours de la PNIX. J'y ai vu une espèce de lyrisme irréaliste dont on pouvait se dire dès alors qu'il serait irréalisable. Les prétentions... Emmanuel Macron était monté très très haut dans les aigus. C'était assourdissant. La vérité, c'est que le contexte international ne permettait pas d'imaginer qu'on avancerait autant qu'il le disait à ce moment-là.
Et ça veut dire en clair que vous réjouissez qu'on fasse finalement une Europe des nations souveraines qui se retrouvent que pour assurer leur protection.
Oui, on est dans un moment plus réaliste. Quelles sont les grandes questions qui se sont posées à l'Europe ces dernières années? Ce sont des questions régaliennes, ce sont des questions pour lesquelles elle n'a pas été faite. La question ukrainienne, par exemple. Qu'est-ce que l'Europe veut tisser avec ses voisins? Avec ses marges. Et comment elle voit la Russie, qui est quand même son grand voisin. La question migratoire, l'Europe n'a pas été faite pour ça. Cette question s'est imposée à elle avec la crise qui s'est déclenchée en 2013, avec l'isolement dans lequel on a laissé l'Italie à l'époque, et en particulier quand l'Italie faisait Mare Nostrum, etc. Toutes ces questions-là ne sont pas les questions pour lesquelles elle a été faite. Elle a été faite pour être une espèce de coopérative d'épiciers qui discutent matin, midi et soir comment ils vont échanger. Peut-être pas seulement, mais en réalité, c'est comme ça qu'elle était vue par ses principaux acteurs. Et aujourd'hui, de voir Mme Merkel à Munich répondre sur l'OTAN et faire la leçon aux Américains, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je pense que le fait qu'il y ait une réaction d'AKK, comme l'a cité Sylvie, c'est déjà la réussite de cette position-là qui consiste à dire « Venez discuter avec moi de ces questions sérieuses ».
Donc, en guise de conclusion, Dominique Schnapper, cette Europe qui est devant nous, c'est cette Europe des nations souveraines qui se retrouvent uniquement pour assurer leur protection. C'est ça
Tout, c'est pas du tout une conclusion, c'est simplement le prolongement de ce que disait Thierry. À l'origine, le projet européen était vraiment un projet politique. Et il y a eu deux grands moments qui l'ont traduit vers l'épicerie. Le premier, c'est le vote de la France contre la CED en 54, qui a été vraiment le moment où du coup les militants européens ont dit bon ben on va construire dans les fêtes et le politique sortira des faits économiques. Or ça n'est pas vrai, le politique ne sort pas des faits économiques, c'est d'une autre nature. Et puis le deuxième moment, ça a été la fin du mur de Berlin qui a enlevé le minimum de volonté politique qui était dans l'Europe, c'est-à-dire de résister au soviétisme. À partir du moment où les Européens ne se sont plus sentis d'ennemis, ils sont venus à cette épicerie dont le Royaume-Uni montre qu'après tout cette épicerie a un certain intérêt. Mais dire que le projet aujourd'hui est plus réaliste, ça je vous suis absolument. Je pense qu'en effet le mois de septembre était irréaliste. Or il n'y avait ni en Italie ni aux Pays-Bas, je suis très frappée par l'évolution des Pays-Bas qui était un des pays les plus européens pour des tas de raisons qu'on peut comprendre et qu'on pourrait développer et qui maintenant est très anti-européen, c'est-à-dire que les peuples ne sont plus pro-européens, ce qui tout de même pour construire une entité politique en démocratie pose un petit problème.
Allez, un mot de conclusion rapide, Sylvie Kaufmann et puis Daniel Cohen.
Juste pour revenir sur les épiciers.
coopérative d'épiciers.
Coopérative d'épiciers, oui, c'est plus joli.
Sur la COP européenne.
La réponse de AKK, donc la dirigeante allemande, a juste une ou deux propositions qui va vous amuser. Bien entendu, elle revient à la revendication d'un siège permanent au Conseil de sécurité pour l'Union européenne, mais elle propose aussi de se mettre à construire un porte-avions européen. Alors, je vous laisse réfléchir sur la faisabilité de ce projet.
Daniel Cohen.
Juste un mot sur cette épicerie, puisque là, ça a marqué tout le monde. La croissance économique, ça compte beaucoup dans le désespoir des peuples. Il y a des corrélations dans tous les sens qui montrent que la montée de l'insécurité économique est l'un des principaux facteurs derrière la montée du populisme, à la fois entre les pays et au sein des pays. Or, la croissance économique est en train de s'éteindre en Europe. Mario Draghi en a fait le constat vendredi dernier. S'il n'y a pas d'initiative qui relance la zone euro, qui permettent de faire que la prochaine crise sera gérée autrement que la précédente, alors l'euro s'interrompra. Donc on est très près du cataclysme en ce domaine. Les Italiens sont tout prêts d'en sortir. Ils ne sont retenus que par la promesse que ça ira un tout petit peu mieux dans l'avenir. Donc il faut impérativement revenir à ces questions fondamentales. C'est la raison pour laquelle il fallait des initiatives fortes sur la zone euro qu'on a perdu en cours de route. Donc c'est très bien de refaire des frontières, mais l'Europe ne se survivra à elle-même que si elle est capable de revenir à un lieu de croissance et de prospérité. Malheureusement, le fonctionnement de la zone euro aujourd'hui ne le permet pas. Voilà, c'est à peu près aussi simple que ça.
Mon idée n'était pas du tout de marginaliser la question économique, du tout. C'était plutôt de cibler ce qu'a été le mercantilisme obsessionnel du cœur de la zone euro, en particulier de l'Allemagne, qui regardait toute question à la lumière de ses exportations et de ses importations.
Donc quelle solution à ça?
Nous en reparlerons bien évidemment. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été nos invités du dimanche. Quelques livres rapidement pour poursuivre sur ces sujets européens de Nicole Niesoto, L'Europe indispensable chez CNRS Éditions, plaidoyer pour une troisième voie libérale et sociale, mondialisée et protectrice. Et puis de notre ami Dominique Régnier, L'Opinion européenne en 2018, comme chaque année, publié par la Fondation pour l'innovation politique. L'Europe fantôme, qui est sorti également cette semaine de Régis Debray dans la collection des tracts Gallimard. Et puis celui qui a gardé la maison la semaine dernière, Gérard Courtois, merci à lui, qui publie cette semaine ses chroniques politiques, La fin d'un monde, de l'élection de Nicolas Sarkozy au Gilet jaune. Merci encore à tous les quatre. Merci à Marine Beccarelli, qui, comme toujours, a préparé avec moi cette émission, à Luc-Jean Reynaud, qui l'a réalisée. À la technique aujourd'hui, c'était Jean Frédérics. À suivre, Caroline Bourret nous emmène déjeuner avec les jeunes chefs français, la relève de la cuisine hexagonale. Tout de suite, voici les effluves des bonnes choses. Bon dimanche sur France Culture et à la semaine prochaine.